Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marc Doucet. Donc, je vais commenter le sujet de comptabilité du DCG de 2021. Donc, ce sujet, la durée de l'épreuve était de 3 heures avec un coefficient 1, comme d'habitude. Il y avait, trois dossiers qui étaient obligatoires et un choix entre deux dossiers, dossier 4 et dossier 5. Le premier dossier qui portait sur la normalisation comptable était noté sur 2 points. Un deuxième dossier sur des opérations courantes qui était noté sur 9,5 points. Un troisième dossier qui concernait des opérations d'investissement et de financement de 4,5 points. Et donc ensuite, il y avait deux dossiers dont vous deviez ne traiter qu'un seul au choix. Soit donc un dossier sur les opérations d'inventaire et l'environnement numérique sur 4 points, donc soit un dossier d'opérations d'inventaire également concernant les stocks et la régularisation et les régularisations diverses. D'accord ? Donc voilà. Alors c'était à faire en 3 heures. Alors on va commencer juste par des généralités. Alors comme d'habitude et comme souvent en DCG, le principal problème c'était le temps imparti pour faire l'intégralité du sujet. Quand je dis l'intégralité, c'est bien les trois premiers dossiers et un des deux dossiers 4 ou 5, hein, on est bien d'accord. Mais évidemment, c'était long pour le faire. C'était, à mon sens, pas particulièrement difficile. On a vu pire, mais très honnêtement, il y avait quand même pas mal de choses à faire parce qu'à chaque fois, il y avait des petits pièges. Encore une fois, rien de monstrueux, mais il y avait pas mal de petits pièges dans lesquels, j'espère, vous n'êtes pas tombés. D'accord ? Donc, on va commencer par le premier sujet sur la normalisation comptable, donc qui valait 2 points, avec à l'intérieur 3 questions, une question identifiée et hiérarchisée parmi les sources du droit comptable, celle relative au document 1. Bon, mais ça, alors c'était dans le cours d'une façon relativement succincte, mais il n'y avait pas besoin non plus de développer ici. C'était donc un document de l'ANC. C'était quand même indiqué dans l'annexe, donc c'était possible de prendre quelques petits points ou des dizaines de points sur cette question. Après, deuxième question, identifier et décrire le principe comptable sur lequel s'appuie l'ANC, vous voyez, dans l'article 512-4 du PCG. Alors ça, par contre, ça, il fallait savoir le faire, hein, puisque là, c'était le principe de l'indépendance des exercices, mais là non plus, ça me paraissait pas très compliqué. Et ensuite, troisième question dans ce premier dossier, expliquer le choix du compte préconisé par l'ANC pour comptabiliser cette aide du fonds de solidarité, dans quel exercice comptable devrait-elle être comptabilisée. Donc là, il fallait indiquer que c'était donc des subventions d'exploitation, que c'était attribué soit pour compléter des recettes, soit pour compenser des charges, que on doit comptabiliser cette subvention d'exploitation lors de son octroi. D'accord ? Donc, et pas uniquement ou simplement à partir du moment où on perçoit les fonds, tout simplement. Donc, vous voyez, sur ce dossier-là, bon, pour avoir les 2 points, 2 points sur 2, c'était peut-être pas facile, mais il y avait quand même moyen, très honnêtement, assez et surtout rapidement, de prendre la moitié des points, à mon sens. Deuxième dossier, donc, c'était des opérations courantes, et là, ça valait 9,5 points. Alors, je ne vais pas reprendre, évidemment, chacune des écritures, puisque vous avez la correction que j'ai faite à votre disposition, mais on va quand même regarder les questions d'un point de vue général. Donc, première question, identifier et définir les réductions figurant dans la facture numéro 6048. Très honnêtement, là, c'était pas difficile, c'est la moindre des choses. Une réduction commerciale qu'on appelle une remise ici de 5% et une réduction à caractère financier qu'on appelle l'escompte. Donc ça, c'était une petite partie de cours. Vous voyez, c'est le genre de choses auxquelles il faut répondre pour gagner des points facilement. Alors après, il y avait toute une série d'écritures à passer à partir d'annexe, hein, donc du document 2, les opérations de Jardimpeck, hein, pour le mois de juin 2020. Alors là, évidemment, hein, il fallait avoir travaillé le cours, s'être entraîné, parce qu'à chaque fois, il y avait des petites difficultés, notamment, par exemple, la première écriture, c'était un problème d'acompte, donc la deuxième, il y avait des emballages, vous voyez, ce genre de choses. Après, il y avait une facture d'avoir, etc. Alors, j'en profite pour faire une petite remarque. Moi, dans la correction, pour justifier les calculs, je parle de la facture d'origine du 1706 et de la facture d'avoir. Je mets en annexe une présentation, enfin je présente la facture. Ce n'était pas obligatoire, on pouvait évidemment passer les écritures sans justifier en annexe en présentant la facture simplifiée. Moi, j'ai à titre pédagogique, je les ai donnés, mais encore une fois, c'était pas obligatoire, parce qu'il me semble que quand on présente la facture, on la fait, c'est plus facile après pour passer les écritures. Mais encore une fois, vous auriez pu passer les écritures directement, ne faire par exemple la facture qu'au brouillon, pas la mettre sur votre copie. On est d'accord? Donc voilà. Après, c'était pas très très compliqué, mais c'était dans cette première mission, parce qu'en fait il y avait deux missions pour ce dossier. C'était plutôt long que complexe, mais tout de même, il fallait quand même être bien concentré, parce que il y avait quand même des petits pièges à chaque fois. J'espère que vous en êtes plutôt bien sortis. Après, il y avait une deuxième mission qui portait sur la déclaration de TVA. Alors là, par contre, c'était relativement simple, je dirais même tout bête, tout simple, enfin en tout cas classique, rien de compliqué très honnêtement. En tout cas, avec le cours que je vous avais écrit, les capacités que vous aviez, les devoirs, etc., j'allais dire c'est presque plus simple. Il y avait quand même un crédit de TVA à reporter, quand même, hein, auquel il fallait penser, mais disons que ça, c'est vraiment un grand classique. Vous voyez, ça, par exemple, c'était des points, me semble-t-il, faciles à prendre. Après, un troisième dossier concernant les opérations d'investissement et de financement. Alors là aussi, vraiment, franchement, classique, pas de difficultés majeures, pas de là, cette fois-ci, pas de pièges vicieux cachés derrière. Franchement, à mon sens, il n'y avait pas de grosses difficultés. Là aussi, il y avait deux missions. Première mission, donc, identifier, justifier la nature comptable de la mini-pelle et de l'entrepôt. Bon, ben, c'était, à mon sens, répondre en donnant la définition d'une immobilisation. Et ensuite, la mini-pelle, elle était achetée par l'entreprise, alors que l'entrepôt était construit par l'entreprise. Donc, dans les deux cas, c'était évidemment une immobilisation corporelle. Deuxième question, calculer, évaluer les valeurs d'entrée de la mini-pelle et de l'entrepôt dans le patrimoine de Jardimpeck. Alors là, c'est purement du cours, et là, il n'y avait pas de problème particulier. La valeur d'entrée, c'est bien le prix d'achat plus les frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation. Et ici, dans ce cas-là, il y avait, bien entendu, des frais accessoires, et ne pas oublier, bien entendu, que le prix d'achat, conformément à ce que je dis dans le cours, dans les vidéos, dans les lives, dans les cas pratiques, partout, concernant une IMO, le prix d'achat hors taxe d'une IMO, c'est après rabais, remise, ristourne et escompte, c'est-à-dire pour le net financier. D'accord? Là, il fallait que ce soit bien clair là-dessus. Après, donc, la valeur d'entrée de l'entrepôt, évidemment, puisque c'est une cette fois-ci non pas une IMO achetée, mais une IMO créée. Le principe, c'est que la valeur d'une IMO créée par l'entreprise, c'est le coût d'achat des matières consommées pour la construction, bien entendu, plus les charges directes de production et les charges indirectes de production, bien sûr, attachées à cette production, bien entendu. Donc là, il y avait de la main d'œuvre directe, main d'œuvre indirecte et des matières premières utilisées. On avait tout ça en annexe. Comptabiliser les opérations concernant la construction, il n'y avait aucune difficulté. C'était une production immobilisée. Donc voilà, ça c'était à mon sens là aussi pas très difficile. Deuxième mission, comptabiliser la mise à disposition des fonds empruntés. Donc là aussi, bon, l'écriture hein, de la mise à disposition des fonds, 512 banques à 164 emprunts auprès des établissements de crédit, ça me paraît logique. Après, présenter les calculs des intérêts du remboursement du capital intervenu au cours de l'exercice 2021. Alors ici, du coup, c'était simple. Alors parce que en fait, comme vous n'aviez pas le droit à la calculatrice, on pouvait pas vous demander de calculer évidemment et heureusement de tête, par exemple, une annuité constante. Tout était donné, sachant que une annuité, c'est les intérêts pour plus le remboursement du capital. Donc, on avait le montant de l'annuité et on pouvait facilement calculer les intérêts, puisque les intérêts, c'est le capital restant dû multiplié par le taux d'intérêt. Et donc, c'était facile de décomposer le montant de l'annuité, de la décomposer en deux parties, les intérêts et le capital remboursé. Et du coup, bien sûr, logique, vous demandez d'enregistrer l'écriture de paiement de la première annuité. Donc, on diminue le compte emprunt 164 pour le montant du capital remboursé. On débite le compte 661 intérêts des charges et assimilés du montant des intérêts, de la charge, bien entendu, et on crédite le 512 banques. D'accord? Donc ça, vous voyez, cette partie-là, c'était aussi. Alors, bien sûr, comme je dis toujours, hein, il s'agit pas de regarder le sujet comme ça. Il faut aussi le faire de A à Z pour se rendre compte que, bien que ce soit que c'était abordable, il fallait quand même du temps pour le faire. C'était pas si évident que ça. Alors après, vous aviez deux dossiers. Dossier 4 et 5 donc, qui étaient au choix. Alors, tout dépend. Alors, certains d'entre vous ont dû choisir le 4, d'autres ont dû choisir le 5. J'allais dire, il me semble que de mon côté, que le dossier 5, par rapport au dossier 4, c'est-à-dire celui qui portait, par exemple, sur les écritures de variation de stock, hein, d'écriture d'inventaire concernant les stocks, et les dettes en devises, enfin les écritures de régularisation, le dossier 5 me paraissait plus rapide à effectuer que le dossier 4. Maintenant, c'est juste un avis personnel, mais certains d'entre vous ont pu choisir l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça valait les deux, valait 4 points. D'accord? Mais il me semble que le dossier 5 était, j'allais dire, compte tenu du nombre de points qui était identique au dossier 4, qu'il était mieux payé, et j'allais dire, en fonction du temps à consacrer. Encore une fois, tout dépend de chacun d'entre vous. Cela dit, ce dossier 4, opération d'inventaire et environnement numérique. Donc là, il y avait des problèmes évidemment de travaux d'inventaire, hein, comme il fallait s'y attendre, bien entendu. Première mission dans ce dossier 4, une session d'immobilisation à régulariser, hein, notamment avec une annulation du compte d'attente, hein, comme souvent dans la réalité, hein, au moment de la vente, on utilise le compte 471, compte d'attente, avant de régulariser tout ça au moment de l'inventaire. La sortie du compte de l'IMO CD, bien entendu, ça c'est sûr. Après, il y avait toute une partie sur des titres. Les titres, c'était donc des actions dans le cas, et c'était des TIAP, hein, des actions, mais de TIAP. Donc là aussi, grand classique, hein, pas très difficile non plus, hein, les actions Calvernia et les actions Erectus, et il fallait déterminer, comparer la valeur d'inventaire des titres qui restaient à ce moment-là par rapport à la valeur d'entrée des titres qui restaient à ce moment-là, et il fallait ajuster les éventuelles dépréciations qui pouvaient exister auparavant ou en créer de nouvelles. Selon le cas. Pour les actions Calbernia, il fallait reprendre les dépréciations, alors que pour les actions Eructis, il fallait créer des dépréciations. D'accord? Après, il y avait un problème sur 4.3 sur créance client. Bon, ben là, il n'y avait pas franchement non plus de difficultés majeures. Ensuite, un amortissement d'un nouveau matériel. Pas de difficultés, me semble-t-il, très honnêtement majeures. Et enfin, une deuxième mission. Il y avait deux questions. Première question dans cette deuxième mission, distinguer le traitement comptable réservé au compte de gestion de celui appliqué au compte de bilan, qui permettront de calculer, de basculer de l'exercice 2020 à celui de 2021. Donc là, ben, les comptes de gestion, comme vous le savez, ben, sont soldés à la fin de chaque exercice, bien entendu, puisque selon la règle de l'indépendance des exercices, et comme on a besoin de connaître le résultat de chaque exercice, que le résultat, c'est la différence entre les comptes de produits et les comptes de charges, il faut bien repartir à zéro pour chaque lors de chaque début d'exercice, bien entendu. D'accord? En revanche, les comptes de bilan, bien entendu, eux ne sont pas soldés, puisque ce que possède l'entreprise, l'actif, par exemple, le 31 décembre, c'est aussi ce qu'elle possède le 1er janvier, une minute après, on va dire, le 31 décembre. Donc, c'est le problème de la clôture des comptes de bilan et leur réouverture immédiatement. Bien sûr que dans le monde réel, c'est le logiciel qui, les logiciels qui effectuent ce type d'opération. D'accord? Ensuite, il y avait une question concernant les obligations légales relatives à la transmission du FEC. Eh bien, alors là, ça, bon, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas pu ou n'ont pas su répondre avec ça. Il fallait voir dans le cours sur les applications numériques, hein, l'environnement numérique. Mais enfin bon, de toute façon, même si admettons que vous n'ayez pas répondu à cette question parce que vous ne saviez pas, c'est pas ça qui vous empêcherait d'avoir l'examen, hein, bien entendu. Donc ça, il s'agit de le problème de la transmission aux services fiscaux des fichiers dématérialisés concernant tout ce qui concerne l'exercice, avec évidemment l'obligation de présenter un justificatif si l'administration fiscale le demande, bien entendu. Alors là, deux possibilités, on va dire. Première possibilité, vous passez par un expert comptable, et donc c'est le cabinet d'expertise qui se charge de ça et qui l'envoie en votre nom, j'allais dire, aux services fiscaux. Ou alors, si vous ne, comme vous n'êtes pas obligé d'avoir un expert comptable à ce moment-là, ben, c'est vous qui le faites et que vous l'envoyez selon le format imposé par l'administration fiscale, tout simplement. D'accord? Ensuite, donc, vous aviez le choix entre ce dossier cadre et un dossier 5 concernant d'autres opérations d'inventaire, dont une première qui consistait à répondre à et de passer les écritures d'inventaire relatives au stock. Donc là, il fallait, c'était pas difficile là non plus, classique franchement. Donc annuler les stocks initiaux de matières premières et de marchandises et créer les stocks finaux. Et ensuite, attention, il fallait quand même régler le problème des dépréciations sur stock qu'il fallait reprendre et où créer. D'accord? Donc là aussi, rien de très compliqué, rien de très classique, puisque là on avait toutes les informations nécessaires. Deuxième question dans cette première mission du dossier 5, indiquer, justifier l'impact des écritures de variation de stock sur le résultat de l'exercice. Alors ça a pu surprendre certains, mais c'est tout à fait logique, hein, puisque il suffit de regarder les écritures comptables pour comprendre quelle est l'incidence que ça peut avoir sur le compte de résultat et sur le bilan, les écritures de variation de stock, bien entendu. Et ça a une incidence et beaucoup sur le compte de résultat. Puisque ça permet, je vous rappelle que les écritures de variation de stock permettent à la fois je veux dire, de faire apparaître le stock final, bien entendu, mais surtout, ou également, surtout c'est un peu exagéré, et également, bien sûr, d'enregistrer, de permettre de déterminer, notamment concernant les matières premières et les marchandises, quelle a été la consommation de matières premières et marchandises, puisque c'est elle que l'on doit indiquer. Et la consommation est bien égale à l'achat de matières premières ou de marchandises, plus ou moins la variation de stock de marchandises ou de matières premières. L'ensemble des deux correspond donc à la consommation. Et selon le cas, ça augmente les charges ou ça diminue les charges selon le cas de figure. Deuxième mission. Et il y avait, alors là c'était des écritures d'inventaire, mais rien là non plus d'extraordinaire, jamais qu'un grand classique. Il y avait donc un traitement lié à des devises, hein, traitement d'inventaire d'une dette en devises. Donc là, il s'agissait d'une perte latente liée à une augmentation de la devise. Donc du coup, il y avait deux écritures à passer. Enregistrement d'un écart de conversion actif lié aux augmentations des dettes, d'accord? Donc on débite le compte 476,2 et différence de conversion actif augmentation des dettes et du coup on augmente la dette 401 fournisseurs 413 parce que c'est hors communauté européenne et ensuite comme c'est il y a une perte potentielle bien sûr il faut faire une dépréciation 685 à 1515 provision pour perte de change. Ensuite, grand classique, une constatation d'une charge constatée d'avance liée à une redevance de crédit bail, rien d'exceptionnel. Et ensuite, une facture à établir, parce que la facture n'avait pas été établie, facture de vente n'avait pas été établie avant le 31-12, et donc il fallait considérer que c'était passé l'écriture de facture client, facture à établir. Donc on débite le 418-1 client facture à établir pour le montant TTC, on crédite la vente de marchandises et la TVA sur facture à établir, selon la règle, bien sûr, de l'indépendance des exercices qui sous-tendent, bien sûr, ce type d'écriture. Ensuite, pour chacune de ces opérations, indiquer et justifier leur impact sur le résultat de 2020, donc impact lié à la dépréciation pour la perte de change, évidemment, mais là, c'est logique, hein, puisque à chaque fois qu'on enregistre une charge, bah, ça diminue le résultat, et c'est le principe de prudence qui s'applique. Quelle est l'incidence de la constatation de la charge constatée d'avance? Ben là, bien entendu, encore une fois, puisqu'on augmente la charge, eh bien ça neutralise, pardon, c'est la charge constatée d'avance, ça diminue la charge qui avait été enregistrée au moment de l'enregistrement de la facture. Comme on diminue une charge, ça augmente le résultat. Et pourquoi on fait ça? Toujours pareil, c'est la règle d'indépendance des exercices, comme pour les produits à recevoir sur la facture de vente qui n'avait pas été établie. Là, du coup, ça enregistrer donc cette facture, eh bien, ça dépend ou c'est lié à la règle, évidemment, de l'indépendance des exercices et ça permet bien sûr d'augmenter le résultat puisqu'on crédite le compte 707 vente de marchandises. Donc voilà en quelques minutes ce que je pense que l'on pouvait dire concernant ce sujet. Encore une fois, en termes de difficultés, très honnêtement, ça me paraît tout à fait abordable et acceptable. Le seul reproche qu'on pourrait, le petit reproche, mais comme c'est très souvent le cas en DCG, c'était quand même assez long parce que mine de rien, notamment sur le sujet à 9,5 points, hein, rappelez-vous les conseils que je vous donnais, méfiez-vous des sujets qui valent le plus de points en général. Alors que ce soit volontaire ou pas de la part des auteurs, mais en tout cas, c'est souvent, vous voyez, 9,5 points, ça veut dire que cette partie-là était à faire à peu près en 1 heure et demie, c'est-à-dire ça valait la moitié des points, donc ça valait la moitié du temps. Attention, le piège, c'était peut-être de rentrer là-dedans, mais ça, je le dis, quels que soient les IE DCG, notamment en finance et en contrôle de gestion, attention au piège. En général, ces sujets qui valent le plus de points, en fait, il faut, pour les faire correctement et en entier, il faut souvent plus de temps que le nombre de points impartis pour le faire. Donc voilà, c'était un petit peu le piège, me semble-t-il. En revanche, le dossier facultatif, voilà, le dossier 5, moi, me paraissait plus rapide à faire et plus simple que le dossier 4, mais bon. Encore une fois, là, c'est un avis personnel qui n'engage que moi. Voilà. Écoutez, j'espère que pour la plupart d'entre vous, vous en êtes bien sortis. Encore une fois, si vous avez bossé le cours régulièrement toute l'année, normalement, bon, je prétends pas que vous pouviez avoir 18 ou 19, mais en tout cas, c'était possible et c'est, j'allais dire, humain d'avoir la moyenne. J'espère que ce sera le cas pour l'énorme majorité d'entre vous. Voilà. Bon courage et à bientôt. Au revoir.